Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué.
Grand-mère Rosot n'est pas là ? Non, dit Bertille, elle est partie très tôt ce matin. À Lompon, chez votre oncle Fred.
Le bon Dieu est absent. On devrait rendre un décret pour forcer Dieu à résidence. Il est à sa maison de campagne et ne s'occupe pas de nous. Aussi, tout va de guingois.
Et il prit l'air d'une jolie brunette, plus gentille que les amours. De belles petites joues roses comme une pêche. Un nez retroussé mignon, mignon. Si la nature pense, les paysages sont les expressions de ses idées.
De la littérature, de la musique, c'est Lyrics sur Radio U 101.1.
Bonsoir et bienvenue dans l'émission Lyrics. Lyrics est une émission de lecture d'œuvres littéraires, que ce soit des romans, des contes, des nouvelles, des poèmes ou encore des pièces de théâtre. Lyrics, c'est le dernier dimanche de chaque mois à 20h sur Radio U et c'est avec Patricia et Marc. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre exploration des contes de la Bécasse de Guy de Maupassant que nous avions abordé lors de la précédente émission de Lyrics. Pour rappel, ce recueil a été publié dans les journaux Gil Blas et Le Gaulois entre le 19 avril 1882 et le 12 avril 1883. La presse donne une certaine orientation des écrits de Maupassant. Ainsi, le journal Le Gaulois, à tendance mondaine et royaliste, lui commande des textes plutôt satiriques. Quant au journal Gil Blas, qui a une orientation plus libérée, il publie des récits plus crus qui sont autant de diagnostics sur son temps. D'une manière générale, au niveau de la forme, la publication des textes en tant que conte correspond au format demandé par la presse de l'époque puisqu'il s'apparente à des brèves. Au niveau du contenu, on ressent le plaisir d'écrire de Maupassant, mais aussi son plaisir d'observation. Et c'est auprès des peintres qu'il trouve sa méthode. Ainsi, il explique « Voir, tout est là, et voir juste. J'entends par voir juste, voir de ses propres yeux, et non avec ceux des maîtres. Il s'agit pour l'écrivain de saisir l'instant privilégié qui fera comprendre l'essence d'un personnage. » D'autre part, on peut noter, toujours au niveau du contenu, que Maupassant fait le lien entre les faits d'actualité et ses personnages. Lors de la précédente émission, nous vous avions lu deux contes, La Bécasse et La Folle. Aujourd'hui, nous vous en avons sélectionné deux nouveaux, Pierrot et Le Testament. Voici donc le premier conte, Pierrot.
Madame Lefèvre était une dame de campagne, une veuve. Une de ces demi-paysannes à ruban et à chapeau à falbala, de ces personnes qui parlent avec des cuirs, prennent en public des airs grandioses et cachent une âme de brute prétentieuse sous des dehors comiques et chamarrés, comme elles dissimulent leurs grosses mains rouges sous des gants de soie écrue. Elle avait pour servante une brave campagnarde, toute simple, nommée Rose. Les deux femmes habitaient une petite maison à volets verts, le long d'une route, en Normandie, au centre du pays de Caux. Comme elle possédait, devant l'habitation, un étroit jardin, elle cultivait quelques légumes. Or, une nuit, on lui vola une douzaine d'oignons. Dès que Rose s'aperçut du larcin, elle courut prévenir madame, qui descendit en jupe de laine. Ce fut une désolation et une terreur. On avait volé madame Lefèvre. Donc on volait dans le pays, puis on pouvait revenir. Et les deux femmes effarées contemplaient les traces de pas, bavardaient, supposaient des choses. « Tenez, ils ont passé par là, ils ont mis leurs pieds sur le mur, ils ont sauté dans la plate-bande. » Et elles s'épouvantaient pour l'avenir. Comment dormir tranquille maintenant ? Le bruit du vol se répandit. Les voisins arrivèrent, constatèrent, discutèrent à leur tour. Et les deux femmes expliquaient à chaque nouveau venu leurs observations et leurs idées. Un fermier d'à côté leur offrit ce conseil. « Vous devriez avoir un chien. » C'était vrai, cela. Elle devrait avoir un chien, quand ce ne serait que pour donner l'éveil. Pas un gros chien, seigneur. Que ferait-elle d'un gros chien? Il les ruinerait en nourriture. Mais un petit chien, un petit freluquet de quin qui jappe. Dès que tout le monde fut parti, Madame Lefèvre discuta longtemps cette idée de chien. Elle faisait, après réflexion, 1000 objections, terrifiée par l'image d'une jatte pleine de pâté. Car elle était de cette race parcimonieuse de dames campagnardes qui portent toujours des centimes dans leurs poches pour faire l'aumône ostensiblement aux pauvres des chemins et donner aux quêtes du dimanche. Rose, qui aimait les bêtes, apporta ses raisons et les défendit avec astuce. Donc, il fut décidé qu'on aurait un chien, un tout petit chien. On se mit à sa recherche, mais on n'en trouvait que des grands, des avaleurs de soupe à faire frémir. L'épicier de Rolleville en avait bien un, tout petit, mais il exigeait qu'on le lui payât 2 francs pour couvrir ses frais d'élevage. Madame Lefèvre déclara qu'elle voulait bien nourrir un quin, mais qu'elle n'en achèterait pas. Or, le boulanger, qui savait les événements, apporta un matin, dans sa voiture, un étrange petit animal tout jaune, presque sans pattes, avec un corps de crocodile, une tête de renard et une queue en trompette, un vrai panache grand comme tout le reste de sa personne. Un client cherchait à s'en défaire. Madame Lefèvre trouva fort beau ce roquet immonde, qui ne coûtait rien. Rose l'embrassa, puis demanda comment on le nommait. Le boulanger répondit « Pierrot ». Il fut installé dans une vieille caisse à savon et on lui offrit d'abord de l'eau à boire. Il but. On lui présenta ensuite un morceau de pain. Il mangea. Madame Lefèvre, inquiète, eut une idée. Quand il sera bien accoutumé à la maison, on le laissera libre. Il trouvera à manger en rôdant par le pays. On le laissa libre, en effet, ce qui ne l'empêcha point d'être affamé. Il ne jappait d'ailleurs que pour réclamer sa pitance. Mais dans ce cas, il jappait avec acharnement. Tout le monde pouvait entrer dans le jardin. Pierrot allait caresser chaque nouveau venu et demeurait absolument muet. Madame Lefèvre, cependant, s'était accoutumée à cette bête. Elle en arrivait même à l'aimer et à lui donner de sa main, de temps en temps, des bouchées de pain trempées dans la sauce de son fricot. Mais elle n'avait nullement songé à l'impôt. Et quand on lui réclama 8 francs, « 8 francs, madame !» pour ce freluquet de quin qui ne jappait seulement point, elle faillit s'évanouir de saisissement. Il fut immédiatement décidé qu'on se débarrasserait de Pierrot. Personne n'en voulut. Tous les habitants le refusèrent à 10 lieues aux environs. Alors, on se résolut, faute d'autres moyens, à lui faire piquer du mât. Piquer du mât, c'est manger de la marne. On fait piquer du mât à tous les chiens dont on veut se débarrasser. Au milieu d'une vaste plaine, on aperçoit une espèce de hutte, ou plutôt un tout petit toit de chaume posé sur le sol. C'est l'entrée de la marnière. Un grand puits, tout droit, s'enfonce jusqu'à 20 mètres sous terre pour aboutir à une série de longues galeries de mines. On descend une fois par an dans cette carrière, à l'époque où l'on marne les terres. Tout le reste du temps, elle sert de cimetière aux chiens condamnés. Et souvent, quand on passe auprès de l'orifice, des hurlements plaintifs, des aboiements furieux ou désespérés, des appels lamentables montent jusqu'à vous. Les chiens des chasseurs et des bergers s'enfuient avec épouvante des abords de ce trou gémissant. Et, quand on se penche au-dessus, ils sortent une abominable odeur de pourriture. Des drames affreux s'y accomplissent dans l'ombre. Quand une bête agonise depuis 10 à 12 jours dans le fond, nourrie par les restes immondes de ses devanciers, un nouvel animal, plus gros, plus vigoureux certainement, et précipité tout à coup. Ils sont là, seuls, affamés, les yeux luisants. Ils se guettent, se suivent, hésitent, anxieux. Mais la faim les presse. Ils s'attaquent, luttent longtemps, acharnés. Et le plus fort mange le plus faible, le dévore vivant. Quand il fut décidé qu'on ferait piquer du mât à Pierrot, on s'enquit d'un exécuteur. Le cantonnier qui binait la route demanda 10 sous pour la course. Cela parut follement exagéré à Madame Lefèvre. Le goujat du voisin se contentait de 5 sous. c'était trop. Et Rose ayant fait observer qu'il valait mieux qu'elle le portât elle-même, parce qu'ainsi il ne serait pas brutalisé en route et averti de son sort, il fut résolu qu'elles iraient toutes les deux à la nuit tombante. On lui offrit, ce soir-là, une bonne soupe avec un doigt de beurre. Il l'avala jusqu'à la dernière goutte. Et, comme il remuait la queue de contentement, Rose le prit dans son tablier. Elles allaient à grands pas, comme des maraudeuses à travers la plaine. Bientôt, elles aperçurent la marnière et la tenirent. Madame Lefèvre se pencha pour écouter si aucune bête ne gémissait. Non, il n'y en avait pas. Pierrot serait seul. Alors Rose, qui pleurait, l'embrassa, puis le lança dans le trou, et elles se penchèrent toutes deux, l'oreille tendue. Elles entendirent d'abord un bruit sourd, puis la plainte aiguë, déchirante, d'une bête blessée, puis une succession de petits cris de douleur, puis des appels désespérés, des supplications de chiens qui imploraient, la tête levée vers l'ouverture. Ils jappaient, oh, ils jappaient. Elles furent saisies de remords, d'épouvante, d'une peur folle et inexplicable, et elles se sauvèrent en courant. Et, comme Rose allait plus vite, Madame Lefèvre criait « Attendez-moi, Rose, attendez-moi !» Leur nuit fut tentée de cauchemars épouvantables. Madame Lefèvre rêva qu'elle s'asseyait à table pour manger la soupe. Mais, quand elle découvrait la soupière, Pierrot était dedans. Il s'élançait et la mordait étonnée. Elle se réveilla et crut l'entendre japper encore. Elle écouta. Elle s'était trompée. Elle s'endormit de nouveau et se trouva sur une grande route, une route interminable qu'elle suivait. Tout à coup, au milieu du chemin, elle aperçut un panier, un grand panier de fermier, abandonné. Et ce panier lui faisait peur. Elle finissait cependant par l'ouvrir. Et Pierrot, blotti dedans, lui saisissait la main, ne la lâchait plus. Et elle se sauvait éperdue, portant ainsi au bout du bras le chien suspendu, la gueule serrée. Au petit jour, elle se leva, presque folle, et courut à la marnière. Il jappait encore. Il avait jappé toute la nuit. Elle se mit à sangloter et l'appela avec mille petits noms caressants. Il répondit avec toutes les inflexions tendres de sa voix de chien. Alors elle voulut le revoir, se promettant de le rendre heureux jusqu'à sa mort. Elle courut chez le puisatier chargé de l'extraction de la marne, et elle lui raconta son cas. L'homme écoutait sans rien dire. Quand elle eut fini, il prononça « Vous voulez votre quin ? Ce sera 4 francs. » Elle eut un sursaut. Toute sa douleur s'envola du cou. « 4 francs ? Vous vous en feriez mourir, 4 francs ?» Il répondit « Vous croyez que je dois apporter mes cordes, mes manivelles et monter tout ça et m'en aller là-bas avec mon garçon et me faire mordre encore par votre maudit quin pour le plaisir de vous le redonner ? Fallait pas le jeter ?» Elle s'en alla indignée. « 4 francs ?» Aussitôt rentrée, elle appela Rose et lui dit les prétentions du puisatier. Rose, toujours résignée, répétait « 4 francs, c'est de l'argent, madame !» Puis elle ajouta « Si on lui jetait à manger à ce pauvre quin, pour qu'il ne meure pas comme ça !» Madame Lefèvre approuva, toute joyeuse, et les voilà reparties avec un gros morceau de pain beurré. Elles le coupèrent par bouchées qu'elles lançaient l'une après l'autre, parlant tour à tour à Pierrot. Et, sitôt que le chien avait achevé un morceau, il jappait pour réclamer le suivant. Elles revinrent le soir, puis le lendemain, tous les jours. Mais elles ne faisaient plus qu'un voyage. Or, un matin, au moment de laisser tomber la première bouchée, elles entendirent tout à coup un aboiement formidable dans le puits. Ils étaient deux. On avait précipité un autre chien, un gros. Rose cria « Pierrot !» Et Pierrot jappa, jappa. Alors on se mit à jeter la nourriture. Mais, chaque fois, elle distinguait parfaitement une bousculade terrible. Puis, les cris plaintifs de Pierrot mordu par son compagnon, qui mangeait tout, étant le plus fort. Elles avaient beau spécifier « C'est pour toi, Pierrot !» Pierrot, évidemment, n'avait rien. Les deux femmes, interdites, se regardaient. Et Madame Lefèvre prononça d'un ton aigre. « Je ne peux pourtant pas nourrir tous les chiens qu'on jettera là-dedans. Il faut y renoncer. » Et, suffoquée à l'idée de tous ces chiens vivants à ses dépens, elle s'en alla, emportant même ce qui restait du pain qu'elle se mit à manger en marchant. Rose la suivit en s'essuyant les yeux du coin de son tablier bleu.
De la littérature, de la musique, c'est Lyrix sur Radio U 101.1. De la littérature, de la musique, c'est Lyrix, sur Radio U 101.1.
Voilà, après ce premier conte Pierrot, voici le second conte que nous vous proposons aujourd'hui, le testament.
Je connaissais ce grand garçon qui s'appelait René de Bourneval. Il était de commerce aimable, bien qu'un peu triste, semblait revenu de tout, fort sceptique, d'un scepticisme précis et mordant, habile surtout à désarticuler d'un mot les hypocrisies mondaines. Il répétait souvent « Il n'y a pas d'homme honnête, ou du moins ils ne le sont que relativement aux crapules. » Il avait deux frères qu'il ne voyait point, messieurs de Courcil. Je le croyais d'un autre lit, vu leurs noms différents. On m'avait dit à plusieurs reprises qu'une histoire étrange s'était passée en cette famille, mais sans donner aucun détail. Cet homme, me plaisant tout à fait, nous fûmes bientôt liés. Un soir, comme j'avais dîné chez lui en tête-à-tête, je lui demandai par hasard « Êtes-vous né du premier ou du second mariage de madame votre mère ?» Je le vis pâlir un peu, puis rougir. Et il demeura quelques secondes sans parler, visiblement embarrassé. Puis il sourit d'une façon mélancolique et douce qui lui était particulière, et il dit
« Mon cher ami, si cela ne vous ennuie point, je vais vous donner sur mon origine des détails bien singuliers. Je vous sais un homme intelligent, je ne crains donc pas que votre amitié en souffre, et si elle devait en souffrir, je ne tiendrai plus alors à vous avoir pour ami. Ma mère, Madame de Courcil, était une pauvre petite femme timide que son mari avait épousée pour sa fortune. Toute sa vie fut un martyr. Dame aimante, craintive, délicate, elle fut rudoyée sans répit par celui qui aurait dû être mon père, un de ces rustres qu'on appelle des gentilshommes campagnards. Au bout d'un mois de mariage, il vivait avec une servante. Il eut en outre pour maîtresse les femmes et les filles de ses fermiers, ce qui ne l'empêcha point d'avoir deux enfants de sa femme. On devrait compter trois, en me comprenant. Ma mère ne disait rien. Elle vivait dans cette maison toujours bruyante comme ces petites souris qui glissent sous les meubles. Effacée, disparue, frémissante, elle regardait les gens de ses yeux inquiets et clairs, toujours mobiles, des yeux d'êtres effarés que la peur ne quitte pas. Elle était jolie pourtant, fort jolie, toute blonde, d'un blond gris, d'un blond timide, comme si ses cheveux avaient été un peu décolorés par ses craintes incessantes. Parmi les amis de M. de Courcil, qui venaient constamment au château, se trouvait un ancien officier de cavalerie, veuf, homme redouté, tendre et violent, capable des résolutions les plus énergiques, M. de Bourneval, dont je porte le nom. C'était un grand gaillard maigre, avec de grosses moustaches noires. Je lui ressemble beaucoup. Cet homme avait lu et ne pensait nullement comme ceux de sa classe. Son arrière-grand-mère avait été une amie de Jean-Jacques Rousseau, et on eût dit qu'il avait hérité quelque chose de cette liaison d'une ancêtre. Il savait par cœur le Contrat social, la Nouvelle Héloïse, et tous ces livres philosophants qui ont préparé de loin le futur bouleversement de nos antiques usages, de nos préjugés, de nos lois surannées, de notre morale imbécile. Il aima ma mère, paraît-il, et en fut aimé. Cette liaison demeura tellement secrète que personne ne la soupçonna. La pauvre femme, délaissée et triste, dut s'attacher à lui d'une façon désespérée et prendre dans son commerce toutes ses manières de penser, des théories de libre sentiment, des audaces d'amour indépendant. Mais, comme elle était si craintive qu'elle n'osait jamais parler haut, tout cela fut refoulé, condensé, pressé en son cœur qui ne s'ouvrit jamais. Mes deux frères étaient durs pour elle. Comme leur père ne la caressait point, et, habitué à ne la voir compter pour rien dans la maison, la traitait un peu comme une bonne. Je fus le seul de ses fils qui l'aima vraiment et qu'elle aima. Elle mourut. J'avais alors 18 ans. Je dois ajouter, pour que vous compreniez ce qui va suivre, que son mari était doté d'un conseil judiciaire, qu'une séparation de biens avait été prononcée au profit de ma mère, qui avait conservé, grâce aux artifices de la loi et au dévouement intelligent d'un notaire, le droit de tester à sa guise. Nous fûmes donc prévenus qu'un testament existait chez ce notaire et invités à assister à la lecture. Je me rappelle cela comme d'hier. Ce fut une scène grandiose, dramatique, burlesque, surprenante, amenée par la révolte posthume de cette morte, par ce cri de liberté, cette revendication du fond de la tombe de cette martyre écrasée par nos mœurs durant sa vie et qui jetait, de son cercueil clos, un appel désespéré vers l'indépendance. Celui qui se croyait mon père, un gros homme sanguin éveillant l'idée d'un boucher, et mes frères, deux forts garçons de 20 et 22 ans, attendaient tranquilles sur leur siège. Monsieur de Bourneval, invité à se présenter, entra et se plaça derrière moi. Il était serré dans sa redingote, fort pâle, et il mordillait souvent sa moustache, un peu grise à présent. Il s'attendait sans doute à ce qui allait se passer. Le notaire ferma la porte à double tour et commença la lecture, après avoir décacheté devant nous l'enveloppe scellée à la cire rouge et dont il ignorait le contenu.
Brusquement, mon ami se tut, se leva, puis alla prendre dans son secrétaire un vieux papier, le déplia, le baisa longuement et il reprit.
Voici le testament de ma bien-aimée mère. Je, sous-signée Anne Catherine Geneviève Mathilde de Croix-Luce, épouse légitime de Jean-Léopold Joseph Gontran de Courcil, saine de corps et d'esprit, exprime ici mes dernières volontés. Je demande pardon à Dieu d'abord et ensuite à mon cher fils René de l'acte que je vais commettre. Je crois mon enfant assez grand de cœur pour me comprendre et me pardonner. J'ai souffert toute ma vie. J'ai été épousée par calcul, puis méprisée, méconnue, opprimée, trompée sans cesse par mon mari. Je lui pardonne, mais je ne lui dois rien. Mes fils aînés ne m'ont point aimé, ne m'ont point gâté, m'ont à peine traité comme une mère. J'ai été pour eux, durant ma vie, ce que je devais être. Je ne leur dois plus rien après la mort. Les liens du sang n'existent pas sans l'affection constante, sacrée, de chaque jour. Un fils ingrat est moins qu'un étranger. C'est un coupable, car il n'a pas le droit d'être indifférent pour sa mère. J'ai toujours tremblé devant les hommes, devant leurs lois iniques, leurs coutumes inhumaines, leurs préjugés infâmes. Devant Dieu, je ne crains plus. Morte, je rejette de moi la honteuse hypocrisie. J'ose dire ma pensée, avouer et signer le secret de mon cœur. Donc, je laisse en dépôt toute la partie de ma fortune dont la loi me permet de disposer à mon amant bien-aimé Pierre Germain Simon de Bourneval pour revenir ensuite à notre cher fils René. Et, devant le juge suprême qui m'entend, je déclare que j'aurais maudit le ciel et l'existence si je n'avais rencontré l'affection profonde, dévouée, tendre, inébranlable de mon amant, si je n'avais compris dans ses bras que le Créateur a fait les êtres pour s'aimer, se soutenir, se consoler et pleurer ensemble dans les heures d'amertume. Mes deux fils aînés ont pour père M. de Courcil. René seul doit la vie à M. de Bourneval. Je prie le maître des hommes et de leur destinée de placer au-dessus des préjugés sociaux le père et le fils, de les faire s'aimer jusqu'à leur mort et m'aimer encore dans mon cercueil. Mes deux fils aînés ont pour père M. de Courcil. René seul doit la vie à M. de Bourneval. Je prie le maître des hommes et de leur destinée de placer au-dessus des préjugés sociaux le père et le fils, de les faire s'aimer jusqu'à leur mort et m'aimer encore dans mon cercueil. Telles sont ma dernière pensée et mon dernier désir. Mathilde de Croix-Luce. Monsieur de Courcil s'était levé. Il cria : C'est là le testament d'une folle ! Alors, monsieur de Bourneval fit un pas et déclara d'une voix forte, d'une voix tranchante : Moi, Simon de Bourneval, je déclare que cet écrit ne renferme que la stricte vérité. Je suis prêt à le soutenir devant n'importe qui et à le prouver même par les lettres que j'ai. Alors, monsieur de Courcil marcha vers lui. Je crus qu'ils allaient se colleter. Ils étaient là, grands tous deux, l'un gros, l'autre maigre, frémissant. Le mari de ma mère articula en bégayant : Vous êtes un misérable. L'autre prononça du même ton vigoureux et sec : Nous nous retrouverons autre part, monsieur. Je vous aurais déjà souffleté et provoqué depuis longtemps si je n'avais tenu avant tout à la tranquillité, durant sa vie, de la pauvre femme que vous avez tant fait souffrir. Puis il se tourna vers moi : Vous êtes mon fils. Voulez-vous me suivre ? Je n'ai pas le droit de vous emmener, mais je le prends, si vous voulez bien m'accompagner. Je lui serrai la main sans répondre, et nous sommes sortis ensemble. J'étais certes aux trois quarts fou. Deux jours plus tard, M. de Bourneval tuait en duel M. de Courcil. Mes frères, par crainte d'un affreux scandale, se sont tus. Je leur ai cédé, et ils ont accepté, la moitié de la fortune laissée par ma mère. J'ai pris le nom de mon père véritable, renonçant à celui que la loi me donnait et qui n'était pas le mien. Monsieur de Bourneval est mort depuis 5 ans. Je ne suis point encore consolé.
Il se leva, fit quelques pas et se plaçant en face de moi.
Eh bien, je dis que le testament de ma mère est une des choses les plus belles, les plus loyales, les plus grandes qu'une femme puisse accomplir. N'est-ce pas votre avis ?
Je lui tendis les deux mains. Oui, certainement, mon ami.
De la littérature, de la musique, c'est Lyrics sur Radio U 101.1.
Voilà, Lyrix, c'est terminé pour ce soir. Nous vous retrouverons avec plaisir le mois prochain. Et d'ici là, bonne lecture à toutes et à tous.
De la littérature, de la musique, c'est Lyrix sur Radio U 101.1.